Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette émission Présence Midi. Et pour débuter, nous faisons un moment de prière et de recueillement avec l'Angélus sur Présence. Soyez les bienvenus.
L'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Voilà, après ce moment de recueillement et de prière avec l'Angélus, c'est un plaisir de se retrouver pour ce Présence Midi. Et à mes côtés, David Torchala. Bonjour David.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Alors David, dans quelques instants, on vous retrouvera pour l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
Oui, on va voir la vie en vert et en blanc cette semaine à Lourdes, parce que c'est le pèlerinage de Lourdes, Cancer, Espérance.
Voilà, exactement. Et puis on parlera bien sûr des journées du patrimoine et puis aussi du séminaire de la radio qu'on a vécu.
Ah, on a vécu un beau séminaire ce
week-end. Voilà, un très beau. Et puis juste après, on va parler d'une belle proposition. Francis Dunn sera avec nous pour la 8e exposition Collection et Passion. C'est le 27 et 28 septembre prochain, c'est à Soumoulot et c'est organisé par l'association Collection en Béarn. Il détaillera les pièces rares et les exposants attendus.
On le connaît bien, Francis Dunn, c'est l'ancien directeur du sanctuaire de Lourdes. Vous avez des relations.
Hein. Tout ça, c'est en famille. Et puis après, Mathias Terrier rencontre avec Philippe Pugeot. Il est artiste peintre. Dans la troisième partie, donc Mathias recevra Philippe Pugeot, qui est peintre et installé au pied des Pyrénées. À 44 ans, ce passionné de philosophie et fondateur de Toiles de France a déjà exposé dans toute la France. Il nous parlera des œuvres qu'il a créées pour l'église paroissiale qui a été inaugurée il y a quelques jours à Lourdes. Voilà le sommaire de ce magazine. Le temps d'un jiggle et puis on vous retrouve, mon cher David, pour parler de l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
Présence à l'Albinque, 92.5.
Alors David Torchala, voilà, on va parler de l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Vous l'avez dit, bien sûr, c'est un grand pèlerinage, on l'appelle même le pèlerinage du sourire, même si dans le mot du pèlerinage, il y a le mot cancer et qui fait terriblement peur. C'est le LCE qui sera donc dans
ils arrivent demain soir.
Ils arrivent tout proche. Mais avant cela, on va faire un petit retour en arrière, puisque ce week-end, c'était le grand séminaire de Radio Présence.
Ah oui, ça a été une joie vraiment toute particulière de pouvoir accueillir, ils nous entendent, ils nous écoutent, tous les membres du réseau Présence, les journalistes, les producteurs, les techniciens, les bénévoles, tous ceux qui font aussi partie des conseils d'administration et qui font vivre chacune de nos 5 radios à Toulouse, à Cahors, à Figeac, à Saint-Gaudens et à Lourdes. Et donc, ça faisait longtemps que le réseau, nous ne nous sommes pas tous retrouvés. Ben voilà, c'est chose faite. Nous nous sommes vus dans le sanctuaire pour une journée où chacun a pu se présenter, se représenter. Ça, c'est aussi l'actualité des radios. Les producteurs changent, les visages changent aussi. Et pouvoir aussi, se donner des lignes directives pour les projets à venir, les projets de la radio, et puis surtout passer un temps de convivialité entre nous, puisque on est dans tout l'ex-Midi-Pyrénées, et donc on est forcément loin, on n'a pas toujours l'occasion de se voir, on s'entend, ça c'est sûr, on s'entend, mais là c'était bien de mettre l'image et le son, en tout cas de pouvoir poser un visage sur une voix, parce qu'effectivement, quand on entend notre cher Éric Leclerc, notre Jonathan Botello, notre Isabelle Duché, Nathalie Cardon, etc. Ben voilà, on connaît leur voix et donc les, là c'était très agréable d'être, de voir également les visages, et puis c'était aussi bon de pouvoir s'encourager mutuellement. On le sait, hein, nos radios, elles vivent de la générosité de tous. Je vous dis un petit clin d'œil, on a été salué par Patrick Tégéraud de RTL, c'est le chef du bureau de RTL Toulouse, qui lui a dit évidemment il faut pas s'amuser à copier RTL, RTL est une radio commerciale. Il dit mais vous, avec Radio Présence, vous faites de la radio une œuvre par voilà la mobilisation de tous, par la générosité des auditeurs, par le temps aussi donné par les bénévoles. Ben voilà, tous ensemble vous faites une œuvre. Ça nous a extrêmement motivés pour la suite, et puis on a aussi pu ainsi se donner rendez-vous pour le prochain Radiodon qu'on vivra au mois de novembre, fin novembre pour le Radiodon.
Et puis à noter quand même que nous avions Monseigneur Jean-Marc Mika qui nous a accompagnés tout au long de cette journée.
Oui, l'évêque de Tarbes-et-Lourdes était là, le recteur aussi du sanctuaire était là pour l'occasion. Bah oui, ce sont tous les deux de fidèles auditeurs. Monseigneur Mika un petit peu plus car il est le président de Radio Présence Lourdes, et puis il est également l'évêque référent pour les radios de la province de Toulouse, et donc vraiment il a pris énormément de temps pour être tous ensemble, pour voilà ce temps vraiment ensemble qui, je pense, a fait plaisir à tous. Et puis vous savez, il faut aussi qu'on ait ce temps là pour nous voir et pour essayer de vous transmettre notre enthousiasme et notre envie de toujours vous rejoindre et d'être à vos côtés.
Ouais, un moment marquant, c'est peut-être la fin de ce séminaire quand on a apporté en procession un cierge.
Oui, on a exactement demandé à Yannick Galupini qui nous écoute, qui est technicien à Toulouse depuis longtemps, c'est certainement celui qui a peut-être le plus d'expérience dans le réseau. Et puis fraîchement arrivé, c'est Jonathan Botello, Jonathan qu'on entend le matin à la matinale. Et bien tous les deux, ils ont porté un cierge, un beau cierge, 15 kilos et plus d'un mètre 50, même peut-être 1m80, un très beau cierge. Avec le logo du sanctuaire, évidemment, avec Monseigneur Mika, nous avons tous été déposés ce grand cierge aux chapelles de lumière pour confier notre radio, confier aussi nos auditeurs, vous qui nous écoutez. Et on sait, c'est pas par hasard que le mot présence a été retenu aussi, c'est vraiment parce que l'on souhaite tous être une présence à vos côtés, et voilà, et aussi avoir la présence de Dieu évidemment sur notre antenne.
Et le logo, c'était bien celui de la radio et pas celui du sanctuaire. Bien sûr, qui est apposé sur le cierge.
Qui est apposé sur le cierge, voilà. Donc beaucoup de pèlerins regardaient, c'était l'occasion de parler de la radio.
Un très beau séminaire, et ça fait du bien aussi de se retrouver. On est sur plusieurs lieux, Cahors, Figeac, Toulouse, Saint-Gaudens, Lourdes. Voilà, et on a peu des fois l'occasion de se rencontrer physiquement. Bien sûr, on travaille et on collabore tous ensemble, mais ça fait du bien de se retrouver.
Et puis de voir que tout le monde a le même enthousiasme. C'est sûr qu'on est une petite radio associative. Enfin, on est là quand même depuis plus de 30 ans. Francky Guéret a su nous rappeler aussi l'historique de la fondation de la radio, mais voilà, encore aujourd'hui, finalement l'élan des fondateurs est toujours là, puisque nous sommes tous avec envie et enthousiasme, c'est vrai, de pouvoir partager l'antenne avec vous.
Et les chiffres Médiamétrie sont loin d'être ridicules.
Et vous êtes 25 000 à nous écouter chaque jour, voilà, ça fait 77 000 quoi, de mémoire par semaine, et puis après, ça, c'est vous, les auditeurs réguliers, et puis à tous ceux qui nous écoutent comme parfois par hasard, dans la voiture, dans la cuisine. Alors là, c'est des 250 000, etc. Le filet est large. Voilà. Il faut savoir le lancer.
Voilà pour ce beau séminaire, et puis le prochain rendez-vous pour la radio. L'événement, c'est bien sûr le Radiodon, vous l'avez dit, fin novembre. Nous allons, puisqu'on était un peu quand même dans le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, on va y rester pour ce beau pèlerinage. Lourdes, Cancer, Espérance, fait partie des trois grands pèlerinages qui sont nés à Lourdes.
Oui, c'est vrai, vous avez raison de le dire, avec le pèlerinage des anciens combattants. Lourdes, Cancer, Espérance fait partie de cela. Et alors en plus, c'est une édition particulière, car Lourdes, Cancer, Espérance fête le 40e anniversaire du premier pèlerinage. Et en plus, dans une année jubilaire. populaire. Alors, c'est vrai que si on regarde en arrière, en fait, c'est en 1985, à l'époque, parler ouvertement du cancer est rare, et puis parler ouvertement d'espérance lorsqu'on est atteint d'un cancer, c'est encore plus rare. De fait, un petit groupe de personnes atteintes d'un cancer fondent de l'association Lourdes Cancer Espérance grâce à la détermination d'un homme, Jean-Claude Bruel, qui était hospitalier Notre-Dame de Lourdes, et avec un petit groupe d'hommes et de femmes atteints comme lui d'un cancer, eh bien, ils ont osé parler d'espérance et dire que l'espérance était possible malgré la maladie. Ça nous permet aussi au cours de ce pèlerinage, les fondateurs vont être mis à l'honneur, et on pense particulièrement à Marie-Claude Aïs-Purua, qui est à Lourdes et qui a donné tant d'années. Je sais aussi qu'elle nous écoute. Alors, le premier pèlerinage, eh bien, il a rassemblé 342 personnes. C'était tout petit. Malheureusement, on a presque envie que ce pèlerinage s'arrête, mais il ne s'est pas arrêté, au point aujourd'hui de réunir plus de 6500 adhérents en France, en Belgique, à Monaco, en Suisse, parce que il y a tous ces bénévoles sont organisés en délégations régionales. Il y a des antennes de Lourdes Cancer Espérance dans la quasi-totalité des diocèses de France, voilà, Belge, Monégasque et Suisse. Et donc aujourd'hui, demain soir, tout le monde va venir converger vers Lourdes pour ce pèlerinage annuel tant attendu. Il sera présidé là aussi par Monseigneur Jean-Marc Mika. Il a décidément un emploi du temps chargé en ce moment. Donc l'évêque de Tarbes et Lourdes accueillera cette foule de vertes et blanches, parce que c'est ça qui caractérise aussi ce pèlerinage du sourire. Vous l'avez dit tout à l'heure, Philippe, c'est d'abord la joie et puis aussi la couleur. Alors comme nous sommes là tous les jours, en arrivant ce matin en voiture, j'ai eu la joie de voir cette immense Vierge couronnée, la grande statue sur l'esplanade, avec des rubans verts et blancs qui l'entourent comme des rayons, parce que en fait tout le monde à Lourdes pavoise et se met aux couleurs de LCE, c'est-à-dire les commerces, les hôtels, on met des ballons, du blanc, du vert. Alors oui, il y a le blanc et le vert, c'est la section paloise, ben non, à Lourdes le blanc et vert, c'est Lourdes Cancer Espérance.
Voilà, puis si vous me permettez, bien sûr, un petit clin d'œil à Marie-Claude Espurua, vous en avez parlé, qui m'a fait le catéchisme quand j'étais tout petit, donc j'ai un lien d'amitié particulier avec elle.
Marie-Claude, peut-être qu'il y a des cours de rattrapage à faire si vous avez un peu de temps. Non, je plaisante.
Voilà pour donc ce beau pèlerinage qui restera avec nous jusqu'à samedi, je crois.
Oui.
Et la conférence du médecin, c'est toujours quelque chose de très intéressant.
Oui, effectivement, toujours un cancérologue qui donne. C'était une rencontre attendue. Vous savez que Lourdes Cancer Espérance innove. Il est possible de voir les célébrations en direct depuis le site lourdescancerespérance.com, avec notamment, voilà, demain soir, la célébration d'entrée, et puis l'ouverture aussi mercredi matin. Voilà, on le doit aussi au dynamisme de son nouveau directeur qui s'appelle Philippe Cabidoche, voilà, qui vient du monde des médias que nous connaissons bien. Oui. Et voilà, qui a pris courageusement la présidence du mouvement qui est national. Et il sera accompagné par Monseigneur Darode, également l'aumônier national de Lourdes Cancer Espérance.
Voilà, Monseigneur Darode qu'on connaît bien aussi à Lourdes, puisqu'il y a resté quelques années. On va terminer, on en avait un petit peu parlé la semaine dernière avec vous, David Torchala, mais ce sont les journées du patrimoine, et si c'est de la même qualité ce que vous avez fait, David, pour le séminaire de la radio, eh ben vraiment, il faut venir.
Eh ben voilà, c'est exactement la même chose. On a fait une petite répétition, j'ai envie de dire, avec les membres de la radio, parce que à l'occasion de ces journées européennes du patrimoine à Lourdes, il y aura la possibilité, c'est assez unique et assez rare, de pouvoir à la fois découvrir les basiliques dans une visite guidée, mais surtout de terminer la visite au sein du service archives et patrimoine pour aller découvrir des collections remarquables que le sanctuaire détient, des collections d'archives avec des écrits, des lettres de Bernadette, des documents historiques qui sont très précieusement conservés, et puis aussi découvrir toute la richesse des collections de paramantiques, tous les vêtements liturgiques, des bannières de procession, et puis aussi de tous les vases sacrés qui sont conservés à Lourdes. Alors ça va être aussi une occasion, ces journées européennes du patrimoine, d'inaugurer le nouveau centre de ressources historiques du sanctuaire, parce que vous savez, il faut, c'est pas tout de conserver finalement des collections, il faut les transmettre aux générations futures, et donc avoir des locaux de conservation qui répondent à toutes les normes que l'on peut imaginer. Donc il y a énormément de travaux, ils sont pas totalement terminé, mais en tout cas vendredi sera inauguré et béni ce nouveau centre de ressources historiques, avec également un nouvel espace d'exposition et avec le vernissage de l'exposition Gucci et Lourdes. Vous savez, c'est cet orfèvre, vraiment une personnalité de l'art sacré qui est contemporain et qui a notamment signé tout le réaménagement du cœur de la basilique Notre-Dame du Rosaire. Cette exposition est organisée en partenariat avec l'association Le Toit du Cœur de la paroisse de Lourdes. On remercie aussi toutes les personnes qui nous ont fait les prêts aussi de l'orfèvre Gucci. On pense notamment à Monseigneur Bouvet, l'ancien évêque de Tarbes-et-Lourdes aujourd'hui à Nîmes, qui nous prêtera sa crosse, signée de Gucci. Et donc ça va être forcément un très très beau moment. Il y aura aussi des photographies de Laurent Etcheverry, c'est un photographe lourdais qui a également été photographier ces pièces d'exception. Donc merci au Toit du Cœur, cette association lourdaise, voilà, et ensemble avec le sanctuaire d'inaugurer ce nouvel espace. Et puis évidemment, donc ces visites, elles ont lieu samedi et dimanche, donc c'est le 20 et 21 septembre. Il y a un départ le matin, un départ l'après-midi chaque jour, donc venez, il y a de la place pour tout le monde. Et puis on prolongera encore ça, ce beau temps de fête du patrimoine, avec dimanche 21 septembre à 18h, un concert magnifique donné également par le Toit du Cœur. C'est un requiem de Mozart dans la basilique de l'Immaculée Conception. Ça s'annonce grandiose.
Merci beaucoup David Torchala pour toutes ces informations. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.
Oui, promis, je serai là.
Vous serez là, très bien. À la semaine prochaine donc pour l'actualité du sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes, comme nous le faisons chaque lundi.
À la semaine prochaine.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous?
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Présence dans la vallée de la Rance, 93.1.
Les 27 et 28 septembre prochains, le Hall d'Osso à Soumoulou devient une véritable caverne d'Ali Baba pour la 8e exposition des collectionneurs organisée par l'association Collection en Béarn. Ici, pas de vente ni d'échange, mais le plaisir du partage. Redécouvrir les métiers disparus, s'initier à la généalogie, jouer au Monopoly, revivre l'école de notre enfance ou admirer de précieux éventails de notre siècle. Les pompiers présenteront leur ancien matériel, une belle occasion de leur rendre hommage après une saison particulièrement éprouvante. Et pour compléter la balade, tombola gratuite avec 3 paniers garnis, buvette et parking gratuit. C'est le 14, donc ce sont les 27 et 28 septembre prochains. On en parle avec son président. Bonjour Francis Dehaene.
Bonjour à tous les auditeurs. Et bonjour Philippe.
Je suis heureux de vous retrouver. C'est la 8e édition.
Eh bien oui, je suis fidèle à Présence.
À Présence, à Radio Présence. Merci. C'est donc la 8e année que vous venez à ce micro. Toujours, voilà, au milieu du mois de septembre, pour ce rendez-vous qui ne s'est jamais arrêté. Je voudrais la particularité, même pendant la période du Covid, ouais, hein. Vous avez eu la chance, vous étiez peut-être des rares à continuer.
J'étais le seul. J'étais oui. Le seul à pouvoir faire un salon pendant la période du Covid.
Oui, et ça, donc il n'y a aucune interruption dans votre parcours associatif et surtout de ce salon des collections. Alors, vous voulez bien le préciser, d'ailleurs, vous avez d'ailleurs mis un flyer pour expliquer c'est quoi une exposition de collectionneurs.
Voilà, alors les collectionneurs, ce sont des gens qui accumulent des objets et qui viennent les présenter aux visiteurs, donc dans une démarche de partage, donc de leur faire partager leur passion, mais surtout raconter l'histoire de ces objets, donc, parce que tout se collectionne aujourd'hui. Un ami a recensé, je crois, 2200 collections, donc oui. Tout peut se collectionner. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi je collectionne, quelle est l'histoire de mon objet, pourquoi il est insolite, parce qu'il y a des choses vraiment incroyables. J'ai notamment en tête une dame qui va venir avec des verres sur lesquels auraient été gravées des affiches de théâtre de Paris, parce qu'en fait, elle a eu la chance de rencontrer, elle travaillait dans un théâtre à Paris, et elle a eu la chance de rencontrer une artiste qui lui a gravé l'affiche des spectacles de ce théâtre. Donc c'est la seule. C'est la seule. Voilà. Voilà. Il y a des gens qui font des collections, se demandent pourquoi, comment ça a démarré. Donc, voilà.
Il y a des objets qui ne valent pas d'argent, mais qui ont une valeur sentimentale ou qui représentent une période de la vie des gens.
Oui, c'est toute une histoire. Je vois mon épouse qui collectionne les fers à repasser anciens. C'est parce qu'un jour, sa grand-mère lui a donné les fers quand elle était jeune fille que c'est parti. Donc ça a toujours un point de départ.
Nostalgie, voilà. Avec quelque chose qui est important.
Moi, je suis collectionneur de timbres. J'ai commencé, il doit y avoir 70 ans, et je n'ai jamais arrêté. Et aujourd'hui, je suis toujours aussi passionné, 70 ans après, pour les timbres. Donc, c'est une passion. On est collectionneur, dans l'âme, on ne l'est pas. Ça ne provise pas. Si on n'a pas envie, il faut arrêter, parce que, d'abord, ça prend du temps, ça coûte cher, et il faut avoir de la place. Ce qui n'est pas le cas beaucoup de jeunes aujourd'hui.
Et dans ce salon-là, ce sont des gens qui, effectivement, viennent proposer, faire voir leur collection. Ce qu'eux, ils aiment particulièrement. Et bien sûr, ils doivent connaître chaque objet qu'ils ont, ils doivent connaître la signification et l'histoire.
Ben oui, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on parle de partage. Il n'y a pas de vente. Ce n'est pas une brocante, c'est pas un grenier, il y a pas d'échange, il y a rien. Après, s'il y a des gens qui veulent faire des échanges, c'est leur problème, mais oui. Moi je veux pas le savoir. Cela ne me regarde pas.
Oui. Alors on va parler de quelques collections qu'on pourra voir donc dans ce salon. On parle de généalogie.
Oui.
C'est quoi alors là du coup, parce que c'est très personnel, une généalogie là, qu'est-ce qui va...
Alors en fait, c'est une jeune collectionneuse. Oui. Ça aussi, c'est un objectif que l'on a, c'est-à-dire qu'on a 3-4 jeunes. C'est pas beaucoup, mais aujourd'hui, on s'est amusé. Le week-end dernier, on faisait un salon à côté de Cognac, et on s'est amusé. On était à peu près 25. On a fait la moyenne d'âge des gens qui étaient là. On est arrivé à 74 ans, donc c'est pas de la première jeunesse notre histoire. Donc c'est bien quand on peut accueillir quelques jeunes. Ah, c'est bien. Et cette personne-là est passionnée par la généalogie, et donc elle va initier les gens. Donc elle présente un petit peu tout ce qui se passe au niveau généalogique et comment on peut faire, etc. Donc elle va initier à la généalogie. C'est assez remarquable ce qu'elle fait.
Ça peut être passionnant aussi de retrouver.
Bah, il en faut pour tous les goûts dans notre histoire.
Charlot et ses amis. Donc là, c'est quoi, des figurines, des photos?
Alors, il y a de tout. Des images, des objets. Et ses amis, c'est Laurel et Hardy. Voilà. D'accord. Donc, et c'est la première fois que ce monsieur vient. Il vient du Calvados. Donc, on vient de loin, quand même. J'ai une dame qui a 85 ans, qui vient de Douai, dans le Nord. Ça. Non, mais c'est... Quand on aime Soumoulou, on aime Soumoulou.
Je pense que c'est pas forcément Soumoulou, mais c'est bien le président et le duo, la famille de Haine, qui font qu'aujourd'hui, vous êtes collectionneur, vous allez aussi dans des salons ailleurs, et donc vous liez des amitiés, et bien sûr, ils vous le rendent en venant chez vous aussi.
Exactement.
Ouais. On continue rapidement, un couvercle de soupière.
Malheureusement, elle ne viendra pas, parce que son mari est très malade, et donc elle ne pourra pas venir.
Donc, pas de soupière. Les maquettes de la faïence de Quimper, le Tour de France.
Oui, là aussi, c'est encore un jeune, un fidèle de chez Fidèle, qui vient tous les ans et qui, tous les ans, nous trouve un thème. Alors, je pense que les parents doivent être fous parce qu'il il a 19 ans. Il collectionne tout. Tout. Alors, c'est lui qui fait sur la marque Total. Là, c'est le Tour de France. Mais il a fait une station-service l'année dernière.
Enfin, vous avez apparu, oui.
Il est fou, ce drôle. Il a 19 ans. Sa mère me dit, sa chambre, c'est plus une chambre.
J'imagine. Les tabatières de poche, ouais. Des maquettes en allumettes. Ça, c'est plus classique.
Ah, oui, c'est pas la première fois qu'il vient, mais il a toujours des choses extraordinaires.
Le Monopoly.
Oui. Encore un jeune.
C'est les plateaux, là, les pions, les plateaux.
C'est le jeu de Monopoly, donc tous les jeux de Monopoly qu'il peut avoir. Et en plus, donc, il va avoir une table où, en fait, les gens pourront jouer au Monopoly.
aussi.
Ah bah oui, non mais...
On peut y passer la journée, du coup,
ah bon, parce que
le Monopoly...
Oui, c'est long.
On sait quand on commence.
Moi, c'est pour ça que j'y joue plus, parce que c'est trop long.
Et puis, les capsules de champagne, mais je crois que vous l'aviez déjà eu, lui, les capsules
non,
de champagne.
Non, non, en fait,
vous
là,
en aviez
c'est,
parlé.
C'est quelqu'un qu'on a vu encore ce week-end, donc, vous voyez, donc on se connaît tous, mais qui a une présentation très originale des capsules de champagne, qui sait les mettre en valeur, enfin, bref, c'est original.
C'est gratuit.
C'est gratuit.
C'est gratuit. C'est les 27 et 28 septembre. Alors, le samedi, c'est de 14h à 18h30. Le dimanche, de 9h30 à midi. Vous avez une pause repas entre vous.
Oui, ça, si, c'est une caractéristique. Parce que les salons où on n'arrête pas le midi. Alors, c'est bien. Parce que, bah oui. Mais sauf que, on voit trois personnes. On mange avec un plateau repas sur les genoux. Ou alors chacun va manger les femmes d'abord, les hommes après. Moi, si vous voulez, nous, on a décidé avec mon épouse de privilégier ce moment d'abord de détente, parce que quand on a eu du monde le matin, ça fait du bien de se reposer pendant 2 heures, et puis d'avoir un moment où on est tous ensemble, parce que c'est aussi important la convivialité entre les collectionneurs, surtout quand ils ne se connaissent pas tous.
Et oui, et là vous avez dit, il y en a 15 qui ne se connaissent pas. Et après, ça rouvre le dimanche 28, de 14h à 18h, l'entrée et le parking gratuit. Il y a aussi cette tombola qui est assez particulière, parce que même si l'entrée est gratuite, on vous donne un ticket à l'entrée.
Voilà, alors ça a deux effets. Le premier, c'est que ça me permet de comptabiliser le nombre d'entrées, donc je suis à l'unité près. Voilà, je sais exactement en donnant un ticket, même si un gamin d'un mois vient, il l'a indiqué, il a le droit. Bon, alors, après, il n'aura peut-être pas la possibilité de dire qu'il a gagné, mais quand même. Mais l'idée, ça me permet de comptabiliser. Et puis, toutes les demi-heures, donc, parce que j'ai des partenaires qui sont généreux, donc je récupère des lots et on offre, si vous voulez, un petit cadeau, alors qui, bon, c'est pas monstrueux, vous n'allez pas gagner une voiture ni un voyage, hein, mais c'est gratuit. Alors.
Oui.
Donc en fait, aujourd'hui, toutes les demi-heures, ben, les gens, ils ont tendance à rester dans le salon, puisqu'ils attendent qu'effectivement on tire leur ticket.
Leur ticket.
Donc, ouais, ça c'est original aussi. Puis après, bon, il y a une bourriche où là aussi, donc j'ai des paniers garnis à gagner, etc. Donc,
Il y a une buvette qui est tenue par votre association?
Ah ben bien sûr, bien sûr. C'est même des anciens du sanctuaire qui m'aident pour ça.
Ah voilà, vous avez récupéré.
J'ai fait ma moisson au sanctuaire.
Et oui, parce que vous êtes l'ancien directeur du sanctuaire pendant quelques années. Et vous avez gardé bien sûr des amitiés avec une partie du personnel. Tout est gratuit, on le dit. On peut venir, bien sûr, à toute heure, hein, le samedi 27 et dimanche 28. Parlons un peu de votre association. C'est le moment phare, bien sûr, hein, c'est le moment du salon.
C'est notre seule manifestation dans l'année.
Mais vous me disiez que d'abord, ben, il y a la recherche des sponsors et vous avez une plaquette qui est assez fournie. Donc là, déjà, c'est pas évident aujourd'hui d'aller taper à la porte des commerçants pour qu'ils vous donnent quelque chose. C'est que la situation est un peu compliquée économiquement. Donc bravo déjà aussi pour ce travail et pour les sponsors qui vous font confiance d'année en année.
Tout à fait.
On retrouve à peu près toujours les mêmes. Et puis il y a aussi cette recherche de collectionneurs. Alors vous-même, vous êtes collectionneur, donc vous faites des salons. Et il y a aujourd'hui une famille qui s'est construite autour de ça.
Oui, bon, sachant ce que je disais un peu tout à l'heure, le problème c'est qu'on est tous en train de vieillir. Et avec plus ou moins de bonheur, hein, c'est-à-dire donc il y a des gens qui sont touchés dans la maladie. Même cette dimanche, on a appris le décès d'un ami donc sur Nantes. Donc malheureusement, donc aujourd'hui c'est un fichier qui se réduit parce que les gens vieillissent, parce que les gens ils ont plus les moyens de faire de la route, ou ils sont malades, ou ils ont des voilà. Donc mais je vous dis, c'est pour ça que, comme on est un petit peu excentré par rapport aux zones d'autres expositions en France, l'idée, c'est surtout de susciter des vocations. Voilà.
Vous en êtes à la 8e édition, monsieur Devenin. Qu'est-ce que vous avez eu là? Vous discutez avec les gens qui viennent. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, les gens qui viennent chez vous? Et qu'est-ce qu'ils disent en repartant?
Ben, ils sont toujours surpris par la qualité... des collections qui sont présentées et surtout par la passion que développent les exposants pour expliquer leurs objets. Ça, c'est Moi, on dit toujours, alors, je ne sais pas si vous connaissez le hall d'Ossau à Soumoulou, mais qui aurait besoin d'une sérieuse restauration. Ça serait bien, je le dis toujours à monsieur le maire. Mais c'est vrai, si vous voulez, que notre salon, dans une salle qui n'est pas extraordinaire, se transforme en musée éphémère. C'est beau, il y a de la lumière, il y a de la couleur. Parce qu'on demande beaucoup de soins dans la présentation des stands. Voilà. J'ai pris aussi la décision avec tout notre staff de limiter le nombre de collectionneurs, volontairement. Parce qu'en fait, quand on a démarré, comme je pensais que j'avais une grande salle, je pouvais y aller. Et donc j'en mettais 50. Donc c'était assez, il y avait des allées qui n'étaient pas très larges, enfin, aux normes, mais pas très larges. Donc là, je suis descendu à 32. Ça a un avantage énorme, c'est qu'en fait, c'est spacieux, les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent, se balader là-dedans. C'est une petite foire exposition de la collection. Voilà, c'est relativement agréable. Voilà.
On avait un salon qu'on appelle le salon des hobbies. Quelle est la différence entre un hobby et peut-être une collection ?
C'est la même chose.
C'est à peu près la même chose.
En fait, Soumoulou est né je dirais pas du dernier salon de la foire des hobbies, ça s'appelait la foire des hobbies, puisque nous on l'a faite, mon épouse l'a faite souvent, et on l'avait refaite en 2017, et puis malheureusement la foire des hobbies a cessé après l'édition de 2018. Les hobbies, c'est parce qu'en fait, c'est pas forcément que des collectionneurs.
Il y a du sport, il y a des...
Il y avait des artisans, il y avait des maquettistes, il y avait un peu des collectionneurs, mais il y avait un peu de tout.
Oui.
Il y avait un peu de tout là-dedans. Donc c'est pour ça que... Puis ça s'appelait Foire des Hobbies, ça devait faire la 40e édition, donc c'était très ancien, la Foire des Hobbies de Tarbes. Le problème, c'était que à la foire, c'était au parc des expositions, et louer le parc des expositions, c'est pas gratuit, c'est-à-dire que... Derrière, vous êtes obligé de mettre un droit d'entrée, et un droit d'entrée, ça rebute quelquefois les gens.
Là, vous avez un partenaire qui est depuis le début de votre. Et vous avez souvent rendu hommage au maire de Soumoulou, qui, même pendant le Covid, à un banco, vous a dit oui, on continue le salon, on fait le salon. Il est toujours derrière vous.
Oui, j'espère qu'il va se représenter et surtout être élu. Parce que c'est un partenaire fidèle.
Puis, il se passe toujours quelque chose à Soumoulou. C'est incroyable.
Voyez, ce week-end, c'était la brocante. Le week-end prochain, c'est la foire aux minéraux. Je fais la pub pour les autres. La semaine suivante, c'est les voitures de collection. La semaine suivante, c'est nous. La semaine suivante, c'est la brocante. Et puis, c'est reparti pour un tour. Oui. Après, je crois que c'est les volailles. Enfin, il y a toujours quelque chose qui se passe à Soumoulou.
Il y a toujours quelque chose à Soumoulou. Donc, on salue, d'ailleurs, le maire, monsieur Alain Trépeu, et ainsi que tout son conseil municipal. Et on va aussi saluer les bénévoles qui vous accompagnent, parce que ça va être du travail d'installer, d'accueillir, de tenir la buvette.
On commence à avoir une certaine expérience, ça va assez vite. On nous faut aller, je dirais, pour tout installer, parce que c'est pas très simple, il faut 5-6 heures. Mais quand on désinstalle le dimanche soir, en une heure, on a tout replié. Parce que bon, il y a bien sûr les bénévoles, mais ils s'en rajoutent. Et puis j'ai les exposants, quand ils ont fini de ranger leurs affaires, qui nous donnent un coup de main. Donc, généralement, ça va assez vite. Ça va vite.
Il y a une vie, bien sûr, dans ce salon. Vous l'avez dit, vous tenez à ce qu'il y ait cette pause déjeuner ensemble, entre vous. Voilà, vous l'avez dit, c'est musée éphémère. C'est à Soumoulou. C'est la 8e année, 8e exposition des collections et passions, avec des matériels anciens de pompiers, donc on salue aussi les pompiers. C'est le samedi 27 septembre de 14h à 18h30 et le dimanche de 9h30 à midi et de 14h à 18h. C'est donc à Soumoulou, au hall d'Ossau. C'est assez simple, c'est quand on traverse Soumoulou, c'est le grand...
Il y a des affiches, des panneaux, des...
Il y a des
banderoles, il y a tout.
Voilà, et c'est organisé par votre association Collection en Béarn, parce qu'il y a toujours, bien sûr, une association qui se cache derrière ce genre de structure. On remercie aussi, parce que vous remerciez aussi tous les sponsors qui vous accompagnent, ce qui permet aussi de financer ce salon, et puis également ceux qui donnent les lots, puisqu'il y a une tombola, on l'a dit, même si c'est gratuit, on a un petit ticket tombola et puis on peut repartir avec un petit cadeau. Ça fait toujours plaisir.
Exactement.
27, 28 septembre. Alors, je ne sais pas, Gilles est à côté de nous, mais allez, on va faire une promesse ici. On va venir faire
Un
reportage.
Et si ce n'est pas le cas, je ne viendrai plus l'année prochaine.
Voilà, eh bien, écoutez, on sera là le 27 ou le 28 septembre, direction Soumoulou. Merci beaucoup, M. Francis Dehaene, d'être venu jusqu'à nous. Et puis, bon vent à vous. Et puis, bonne 8e édition de votre exposition.
Ah oui, c'est la différence entre, on utilise le mot exposition,
oui,
et non plus salon, parce que salon, ça veut dire vente.
D'accord.
Dans l'esprit des gens, il faut pas tromper les gens, voilà, qui viennent.
Une expo.
Parce que, mais je pensais que, non, c'est une exposition. On expose. Voilà, on expose. C'est important, ça.
Voilà. Et puis, bien sûr, prendre le temps de discuter, parce que bien, les gens qui présentent leur collection sont intarissables.
Voilà. C'est pour ça aussi qu'on limite le nombre d'exposants pour permettre. Alors, tous les stands n'intéressent pas tout le monde. Parce que, entre celui qui va faire du Monopoly, les clés USB et puis les vieux outils. Bon. Ouais. Donc, il en faut pour tout le monde. Mais il faut aussi donner aux gens le temps, si vous voulez, de pouvoir discuter.
Mais oui. Voilà. Et donc, il peut y avoir des rassemblements devant certains stands, voilà, parce que la collection plaît, parce que la personne est intéressante aussi à entendre. Oui. Et je ne doute pas que tous ces gens sont des passionnés et qui connaissent par cœur.
Venez, Philippe. Vous comprendrez mieux l'année prochaine.
Voilà.
Et l'interview.
On en parle à l'interview. Mais je n'en doute pas, même si, bien sûr, on peut bien sûr discuter de ce salon. On comprend un peu l'intérêt. Merci, Monsieur Dehaene. Au 27 septembre et à l'année prochaine.
D'accord, merci Philippe.
Au voilà, merci Monsieur Dehaene, effectivement. On va se retrouver dans quelques instants avec Mathias Terrier pour le magazine De Passage à Lourdes. On reçoit un artiste qui a fait une œuvre à l'église paroissiale de Lourdes. Vous allez en savoir plus si vous restez, bien sûr, en notre compagnie.
Radio Présence dans la Cité Mariale, 96.
Présence
De Passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. S'il est un lieu qu'il faut absolument redécouvrir à Lourdes, c'est l'église du Sacré-Cœur. Église du Sacré-Cœur qui a été entièrement réhabilitée, remise à neuf. Et on la découvre sous un jour nouveau, notamment grâce à l'art. Nous avons aujourd'hui comme invité Philippe Pugeot. Bonjour Philippe Pugeot.
Bonjour.
Vous êtes artiste peintre. J'oserais dire que vous êtes pétri de philosophie, parce que quand on a fait un master de philo, forcément on s'intéresse à la question et à toutes ces questions qui traversent nos vies. Et on va voir combien l'art, tel que vous le déployez dans votre vie, et la philosophie, tout ça est très lié. On vous doit un chemin de croix qui maintenant permet à tous les pèlerins, tous les paroissiens, de méditer le chemin de croix dans cette église du Sacré-Cœur. Et puis un polyptyque qui habite le cœur de ce Sacré-Cœur. Et justement, ce polyptyque est totalement dévolu à comprendre et entrer dans ce qu'est la dévotion du Sacré-Cœur. Merci beaucoup de venir vous livrer à nous, vous qui êtes peut-être pas ici en terrain conquis, si je puis me permettre. Vous le disiez vous-même, agnostique. Et on aimerait comprendre comment un artiste comme vous, qui avoue assez simplement, humblement, son agnosticisme, accepte d'entrer dans, finalement, la pédagogie d'une immense dévotion fondamentale qu'est le chemin de croix. Comment vous êtes entré dans cette proposition, Philippe Pugeot ?
Eh bien, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être ici. Comment je suis rentré là ? Tout simplement, on est venu me chercher. Mon travail était très centré sur l'idée du spirituel, l'idée du sacré, à travers la raison, mais à travers ce qu'on pourrait appeler, ce que Lévi-Strauss appelle la pensée magique, la pensée du sacré, le respect. Il disait la pensée sauvage et non pas la pensée des sauvages. Respirer une fleur, c'est déjà penser. Cette pensée, elle m'a toujours habité dans mes réflexions philosophiques et dans ma peinture. Et donc, c'est tout naturellement que je me suis penché vers les grands textes religieux qui m'intéressent au plus haut point, que je respecte, dont je respecte le sens profond, symbolique et aussi la beauté des images qui y sont développées. Je suis un agnostique, effectivement. Alors, c'est moins un aveu qu'un état de fait, hein. Il n'y a pas de, je veux dire, je suis quelqu'un qui pense que la foi a toute sa place dans la société, que vouloir l'interdire serait une mauvaise chose, et qu'il faut une place pour toutes les fois, pour les non-croyants, et que de toute façon, qu'on le veuille ou non, ces histoires, ces mythes, et pour ceux qui y croient, ces croyances, nous habitent et nous constituent.
Et nous font vivre.
Absolument.
Donc vous, vous acceptez à la fois d'arriver avec ce que vous êtes, ce bagage d'artiste, de ce corpus hein, de pensée, de réflexion, de cheminement, et puis le respect que vous devez à cette dévotion quand même pluriséculaire, enfin, et puis ancrée dans la vie du Christ. C'est juste la foi de l'Église catholique et de la foi des chrétiens qui s'exprime là.
Bien sûr, alors là il y a deux enjeux pour moi quand on passe des commandes comme celle-ci. La première, c'est de me respecter en tant qu'artiste qui vient représenter quelque chose et tout en étant sincère avec moi-même, et respecter aussi le lieu de culte qui accueille ces œuvres. Les œuvres sont là pour des gens qui ont foi et des gens qui, comme moi, viennent dans les églises parce qu'elles sont des lieux du beau dans le monde, de la géométrie sacrée, d'essayer de faire un vecteur vers le bien par le beau, comme aurait dit Platon. Et donc cet enjeu, c'est d'être également très respectueux de toutes les personnes qui vont se trouver là, regarder et d'essayer de les faire apercevoir d'une nouvelle manière ces histoires qu'on leur raconte et qu'ils viennent chercher depuis longtemps.
14 stations, puisque un chemin de croix se médite, s'accomplit par des stations. On chemine, on avance dans la vie du Christ, progressivement jusqu'à la mort et la résurrection. Vous, vous n'êtes pas parti de ce qu'on dit du chemin de croix ou de ce qu'on a fait au fil des siècles du chemin de croix, mais des textes eux-mêmes, des évangiles.
Absolument. Alors, tout d'abord, je rebondis sur ce que vous dites et qui m'intéresse beaucoup. Vous dites « on chemine dans un chemin de croix » et c'est très beau. Et ça me fait penser à des poèmes de Verlaine. Quand on lit un poème de Verlaine, c'est comme si on marchait. Si vous relisez un poème de Verlaine, vous avancez strophe par strophe, comme s'il faisait des pas dans le jardin des Tuileries, quand on sait qu'il a fini sa vie converti au catholicisme, très croyant. Je trouve que c'est une image émouvante. Effectivement, ce chemin de croix, j'ai voulu le revoir très sérieusement. Quand on me passe une commande, je repars à la source des textes. Et j'ai découvert très facilement que les chemins de croix qu'on nous propose dans la plupart des églises ne sont pas des faits que vous allez trouver dans la Bible. Ce sont des chemins de croix qu'on appelle traditionnels. Jésus qui tombe, qui se relève, etc. Ce n'est pas une chose écrite dans les évangiles canoniques. J'ai voulu donc reprendre les évangiles canoniques, j'ai fait 4 colonnes, et j'ai fait minute par minute les actes que l'on peut lire. Alors il y a des petites différences entre Luc, Marc, Jean, Matthieu, mais il y a beaucoup de points communs.
Mais rassurez-nous, ce qu'on voit dans les chemins de croix traditionnels, pour une bonne part, est quand même ancré dans l'évangile. Pas entièrement.
Alors, non. Par exemple, Jésus tombe, se relève, le visage est essuyé, c'est pas écrit. C'est pas écrit dans les évangiles. Enfin, de ce qu'il me semble
mais
bien.
Mais Jésus tombe.
Peut-être, sans doute. En tout cas, c'est une image qu'on a développée comme ça. Ce qui est sûr, c'est que Jésus à Gethsémani est dans la détresse. C'est Pierre le renie 3 fois, le baiser de Judas, tout ça c'est écrit. La rencontre avec le Sanhédrin et le Caïphe, avec Ponce Pilate, tous ces éléments y sont. Et donc, en les ordonnant petit à petit, je me suis rendu compte qu'un chemin de croix, qu'on appelle donc évangélique, puisqu'il est repris très précisément dans les évangiles, celui-là existe et il a été ratifié par Jean-Paul II en 1991. Il m'a suffi de reprendre donc ces stations-là pour pouvoir développer un chemin de croix qui me semblait très pragmatique et pourtant dans le sacré, dans la foi.
Ce que vous nous dites là, c'est que Saint Jean-Paul II lui-même, en 1991... médite un chemin de croix sur cette démarche que vous exposez.
Et par là même, alors je ne connais pas l'histoire exactement, je ne sais pas si c'est lui qui l'a commandé, mais c'est une manière de venir apposer ce chemin de croix, voilà, et conforme. Je viens devant pour montrer de ma présence que je l'approuve.
Vous, reprendre les quatre évangiles comme ça, les retravailler, ça ne laisse pas indemne. Forcément, vous-même,
oui,
vous êtes laissé imprégner par ce qui est au cœur de la foi chrétienne.
Bien sûr, absolument. D'abord, j'ai fait un travail un peu d'historien, d'archéologue. J'ai été recherché jusqu'au tissu qui était tissé à l'époque et dans la région pour savoir ce qu'il portait. Et c'est cocasse parce qu'à la fin, mon chemin de croix est très évanescent. Contrairement, par exemple, au polyptyque qui, lui, est très réaliste, le chemin de croix est fait de volutes, mais il me semblait important que je connaisse la vérité de la chose. La croix de Jésus est une croix en taux, puisque les historiens disent que la croix de Jésus n'était pas latine. Elle était en forme de T majuscule, comme ça, et donc Jésus ne transporte pas la croix tout au long en croix latine, il transporte la partie horizontale qu'on appelle un patibulum. Et je trouve ça beau de réhabiliter cette idée-là. Ça s'est fait dans de nombreux chemins de croix. C'était ma manière d'aborder la chose.
Et donc, vous-même, vous avez forcément fait cet effort de penser à tous ceux qui, dorénavant, vont défiler par milliers et millions dans les années à venir dans cette église du Sacré-Cœur et vont, pour certains, découvrir la vie du Christ, pour d'autres, méditer ce à quoi ils croient. Donc l'artiste, comment fait-il quand il est dans son atelier pour penser à tous ceux auxquels il va s'adresser ?
Eh bien d'abord, c'est toujours de la même manière. Moi, le spectateur, ce n'est pas quelqu'un que j'écarte de mon processus de création. Au contraire, je pense à lui. Je ne veux pas faire une œuvre trop élitiste pour l'éloigner, même si je ne fais pas mon œuvre en fonction de lui. Je pense que tout le monde doit avoir accès à une... Pour moi, une grande chose, c'est une chose que tout le monde peut comprendre dans divers degrés de lecture. Et donc, quand je vois toutes les iconographies du Christ que l'on peut trouver, même, par exemple, on trouve des Jésus très blonds, aux yeux bleus, alors qu'on nous dit qu'en Terre Sainte, à l'époque, ils avaient la peau plutôt bronzée, ils étaient plutôt bruns, etc. Mais moi, je trouve que c'est une diversité magnifique. Moi, j'ai voulu recoller à une forme de réalisme, parce qu'il me plaît, en tant qu'agnostique, de venir, au plus près de la réalité du message, pour montrer qu'il n'y a pas besoin de l'achalander de petits ornements pour montrer la beauté du message. En tant qu'agnostique, j'ai pleuré à la parabole du fils prodigue. Voilà. Quand je la lis, quand je l'écoute, à chaque fois, ça me fait quelque chose. Les images de Christ me portent et je n'ai pas besoin de venir les orner. Je comprends qu'on le fasse, je comprends ce besoin-là, mais ce n'est pas ma manière de fonctionner. Et quelque part, je mets le sacré dans un monde plus réel, plus réaliste.
Et puis, dans votre chemin de croix, au-delà de la souffrance, de la difficulté, des obstacles, il y a la joie. Vous avez accepté d'aller jusqu'au bout de la foi de la résurrection,
oui,
la résurrection.
Absolument. Pour moi, le christianisme, moins que la résurrection, c'est la religion de l'incarnation. C'est-à-dire, nous sommes matière. Et comme nous sommes matière, nous sommes faibles. Jésus, par exemple, le polyptyque avec le Sacré-Cœur, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée du Saint-Esprit qui descend, ou du Fils de Dieu, qui s'incarne dans le cœur fait de matière d'un homme, pas le cœur symbolique. Et ce cœur qu'on blesse, qu'on pique avec une dague, et qu'on tue. Et ce cœur fait que cette position de Dieu n'est plus transcendante, au-dessus, extérieure. Dieu est vraiment dans une idée... intérieur au monde des hommes, au monde de la matière. Moi, je trouve que ça réhabilite, à mes yeux, l'idée de la foi pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on est moins dans une idée de magie qui, à des moments, la science peut faire fuir, parce qu'on se dit la science peut presque tout expliquer, etc. C'est pas une bonne raison pour moi. La bonne raison, c'est que symboliquement, ce Dieu est incarnation, il est dans la matière. Et donc, j'ai voulu le traiter comme ça. D'ailleurs, au moment où j'ai créé ce chemin de croix, j'étais en passe de devenir papa, ça me travaillait beaucoup, ma compagne était enceinte, et j'ai donc créé ce chemin de croix vraiment dans la matière, puisque je l'ai créé comme un accouchement. Vous allez trouver Jésus au Mont des Oliviers, à Gethsémani, dans la première station, vu de haut, perdu dans ce bleu qui caractérise le fond de tous mes tableaux, puisqu'il n'y a pas de décor, les personnages sont directement dans le décor, dans un bleu. Et Jésus est vu de haut dans une position fœtale, exactement comme dans le ventre de sa mère. Au fur et à mesure des stations, il va souffrir les douleurs de l'enfantement. Sa mère, Marie, va souffrir de le voir torturé. Il va être torturé physiquement, abandonné par son institution religieuse, abandonné par l'administration romaine qui dirige. Ses amis vont le renier, un autre va le trahir. Et à la fin, cette mise au tombeau, c'est moins l'entrée vers la mort qu'une renaissance. Cette renaissance qui n'est pas pour moi une résurrection, là on parle de symbole, hein. C'est la mort de Jésus de Nazareth et la naissance de Jésus-Christ.
Si vous le voulez bien, Philippe Pujol, nous marquons une pause dans cette émission. Juste après, nous continuons ce dialogue avec vous, vous qui êtes l'auteur, donc l'artiste qui avait accompli ce chemin de croix dans l'église du Sacré-Cœur de Lourdes et ce polyptyque qui habite le cœur de ce Sacré-Cœur, justement. À tout de suite.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Philippe Pujol. Philippe Pujol, vous êtes sorti de votre atelier, vous en sortez souvent quand même, j'exagère un peu en disant cela, atelier situé à Bagnères-de-Bigorre, dans cette magnifique vallée du Haut-Adour qui mène à la vallée de Campan.
La plus belle vallée.
La plus belle des vallées, alors là c'est vous qui le dites et c'est sans doute vrai pour ceux qui la connaissent et qui y sont nés. D'ailleurs, votre grand-père, je crois, était berger dans cette vallée.
Absolument, et nos troupeaux sont encore en estive dans ces vallées.
Vous êtes artiste et on vous a invité parce que on avait envie de comprendre comment vous avez réalisé ce chemin de croix qui dorénavant permet la méditation à tous ceux qui entrent dans l'église du Sacré-Cœur de Lourdes et puis ce polyptyque dédié au Sacré-Cœur qui est dans cette église. Vous nous avez dit combien finalement ça vous fait vous-même bouger hein, de faire un chemin de croix. Vous avez dû vous replonger dans les évangiles, retravailler et vous appuyer sur l'expérience proposée par Jean-Paul de lui-même en 1991, qui fait ce qu'on appelle un chemin de croix évangélique.
Absolument.
Et vous repartez de là et vous nous proposez ce qu'on peut voir dorénavant dans cette église du Sacré-Cœur de Lourdes. Le polyptyque dans le cœur est dédié au Sacré-Cœur. À tout le moins, c'est le minimum qu'on puisse faire pour cette église.
Absolument.
Qui s'appelle l'église du Sacré-Cœur de Lourdes. Comment avez-vous travaillé pour aller offrir là aussi la pédagogie nécessaire à ce qu'est la dévotion au Sacré-Cœur ?
Alors la première chose, moi je suis un artiste, donc je fonctionne avec ma pensée fonctionne de manière visuelle. Et j'ai voulu continuer à développer cette idée de ce bleu très présent qui, il me semble, s'il traduit dans la passion ce bleu, une forme de violence d'aujourd'hui, une violence pop. On pourra en parler, mais il incarne surtout l'esprit. Ce bleu, c'est l'esprit. C'est-à-dire, c'est un bleu irréel qu'on ne va pas trouver dans la nature, un bleu mer du Sud, un bleu Caraïbe comme ça. Et en l'opposant à la matière, c'est-à-dire à la carnation, aux couleurs que j'utilise pour peindre la carnation dans les personnages, les ocres, ces couleurs sont tirées de pigments qui sont ramassés dans les montagnes et moulus. Donc, c'est vraiment la matière terre. En opposant cette matière terre à ce bleu, j'oppose la matière et l'esprit, bien sûr, où je les mets en résonance. De la même manière, le cœur était pris des reflets des vitraux qui le surplombent. Au gré de la journée, les vitraux font tourner la lumière comme ça sur les panneaux et viennent refléter les petits carrés. Ces petits carrés qui rejoignent ma façon de représenter dans d'autres œuvres les choses que je travaille pour un peu déconstruire la réalité. Et il m'a semblé bien de venir mettre des carrés comme ça de lumière partout dans mon tableau pour qu'on confonde et que le spectateur, s'il vient l'après-midi par beau temps, qu'il se dise « Mais attends, est-ce que ces carrés sont peints sur les tableaux ou est-ce qu'ils sont le reflet des vitraux qui viennent dessus ?» Et en flouant comme ça sa perception du réel, eh bien, je balaye la frontière entre le spirituel et le matériel. Je me demande si ces carrés sont faits de lumière ou si c'est moi qui les ai peints. Et en flouant ça, j'ai l'impression d'avoir fait mon travail.
Vous avez une démarche très figurative, donc les personnages sont représentés vraiment comme des personnages bien incarnés, pour reprendre votre mot. Et vous êtes aussi allé chercher des visages de l'histoire de l'Église qui sont édifiants, magnifiques. Alors on pense bien sûr à Saint-François de Sales, par exemple, mais à d'autres, hein, Saint-Jean-Eudes, Jeanne de Chantal... qui, avec François de Sales, hein, a beaucoup œuvré
bien sûr.
Dans la continuité, justement, de la pensée de Saint-François de Sales. Et vous êtes même allé, je crois, à Paray-le-Monial.
Oui, absolument. J'ai pris une année, quand la commande est arrivée, j'ai pris une année d'études. Donc, j'ai voyagé en lisant les grands textes, en lisant Sainte-Marguerite-Marie à la coque. Non seulement le livre écrit sur elle, mais aussi les pensées qu'elle a écrites pour les novices, qui m'ont paru très éclairante. Saint-Jean-Eudes, Saint-Maximilien-Kolb, effectivement Saint-François de Sales, et aussi
le Sacré-Cœur de Montmartre.
À Montmartre, Alexandre le Gentil, Réau de Fleury, etc. Bon, c'était des lectures passionnantes pour me faire une idée de ce qu'était le Sacré-Cœur pour les gens. Donc j'ai rencontré des sœurs à Paray-le-Monial. Je me souviens avec émotion d'une sœur un peu âgée qui a passé 30 ans dans le couvent et qui m'a parlé avec passion de Marguerite Marie. Et tout ça m'a forgé une idée de ce qu'était le Sacré-Cœur. Et vraiment l'idée d'oratoire dans le cœur est venue me chercher, moi, qui étudie la pensée, les formes de rationalité, cette idée d'oratoire dans le cœur qui a guidé, qui a été un fil rouge dans la réalisation des panneaux du polyptyque.
Tout de même, on sent bien à vos mots que cette expérience, forcément, elle vous a fait bouger, elle vous a fait vous-même plus que découvrir, non ?
Bien sûr.
Vous réinterrogez, sans doute.
Ah, bien sûr, évidemment. Moi, je suis... J'ai été baptisé, j'ai fait mes communions, ma mère est très croyante. J'ai toujours été, comment dire, dans cette interrogation. Je suis un peu dans les trois mousquetaires, je suis un peu Aramis, celui qui part au combat. Mais ses amis, s'ils le laissent tranquille cinq minutes, il part écrire un mémoire dans un couvent. Et donc moi, j'ai ce côté monacal et cette appétence, évidemment, pour le sacré et le spirituel. Mais... Je tâche de raison garder pour la représentation dans mon travail. Mais évidemment, je suis touché dans mon cœur.
Votre maman dont vous parliez à l'instant, c'est Monique Pugeot-Monfrand.
Absolument.
Qui est une artiste. Qui est une artiste admirable.
Oui.
Magnifique. Votre papa était dans l'art aussi ?
Non, pas du tout. Mon papa était douanier pour gagner sa vie et berger de cœur. C'est-à-dire qu'il quittait le travail... Il enlevait vite son pantalon, il changeait de pantalon et il partait dans la montagne aider à surveiller les moutons, à faire le foin pendant l'été.
C'est ce qui a construit le petit Philippe, à 16 ans, quitte l'école,
oui.
Est en rébellion,
absolument.
Refuse tout ce qu'on lui impose et n'est pas compris, et est en rupture. Comment oui. L'enfant de 16 ans, le jeune de 16 ans, qui est à la rupture et qui quitte tout ça, tout cet univers conventionnel, revient par l'art?
Ce qu'il faut comprendre en une minute, c'est que quand je quittais l'école et que je faisais l'école libutionnaire avant de prendre la décision de quitter complètement, c'était pour aller à la bibliothèque, me renseigner sur les cathares, sur la civilisation romaine, la civilisation grecque. Et je comprenais pas d'avoir des bananes, d'avoir 3 sur 20 en histoire, simplement parce que le prof n'aimait pas que je dessine, au lieu de l'écouter les yeux fixés. Or, je lui disais, quand je vous écoute en vous regardant dans les yeux, mon esprit divague. Si je veux me concentrer sur ce que vous dites, je dois dessiner. Et là, je retiendrai votre cours par cœur.
Et donc, vous étiez détesté des profs, de certains
profs. Détesté, voilà. J'ai eu beaucoup
vous
de mal.
Vous agaciez.
Voilà, j'agaçais. Donc, j'ai arrêté l'école, j'ai arrêté la casse. Et là, j'ai rencontré des amis musiciens qui eux-mêmes faisaient des études de sciences et de philosophie. Et leur conversation m'a paru tellement stimulante que je me suis dit, je dois reprendre le chemin de l'école. Et en le faisant avec ce but-là, aller faire de la philosophie, et bien à ce moment-là, j'ai repris l'école et là ça a très bien marché, devenu bon élève. Les profs ont accepté à ce moment-là comme j'étais, puisque je leur disais, j'ai su trouver les mots pour leur expliquer. Et donc là j'ai passé mon bac et j'ai intégré l'université de philosophie jusqu'à obtenir un master.
C'est un magnifique message d'espoir quand même pour ceux qui nous écoutent, qui disent bon bah où mon fils, mon petit-fils, mes proches sont en difficulté scolaire ou
oui.
En difficulté
oui.
Pour entrer dans le carcan.
Oui, il faut pas
vous
le lâcher.
Vous n'y étiez pas, vous n'y non. Arriviez pas.
Voilà, et il faut lui dire bon mais sors, mais par contre on discute, je te laisse pas faire n'importe quoi. Bon moi j'ai fait du skateboard, j'ai fait la fête comme tous les jeunes, hein. Mais je l'ai fait avec ce but de reprendre, j'ai repris et j'ai découvert. Effectivement, la peinture avec un grand P, l'art avec un grand A, c'est-à-dire les préoccupations de Picasso, de Mondrian, de Matisse, de Rubens ou de Raphaël, quand j'ai eu seulement 18 ans. Et par contre, je n'ai plus pu quitter cet univers.
Et vous pouvez en vivre, Philippe Pugeot, de cet univers ?
J'essaye, j'ai une petite entreprise à côté, je fabrique des toiles pour les autres artistes. Des toiles blanches que j'expédie, j'ai une petite menuiserie et donc je fabrique des châssis. À la base, je fabriquais ces châssis pour avoir des toiles moins chères parce que ça coûte très cher. Et donc, comme ça, j'ai des clients à qui je vends des toiles.
Et donc, vous réussissez à vous partager entre la nécessité vous exprimer librement vous-même votre art hein, sur ces toiles ou bien de les envoyer, de les fabriquer pour d'autres.
Si j'avais dans un monde idéal, j'aurais quelqu'un qui fabriquerait les toiles et moi je ferais que peindre, évidemment. J'aimerais avoir des assistants comme Rubens à son époque.
Comment on vit d'art aujourd'hui? On trouve les moyens d'avoir des mécènes, des commandes, des galeries?
Il faut trouver des gens qui croient en nous, il faut se battre et travailler tout le temps. Voilà. Si on reste assis, personne ne viendra vous dire « vous êtes un génie, je vous prends tout ». Il faut se battre, il faut peindre, il faut s'intéresser au sujet. Et à force de discuter avec des gens, de rencontrer des gens qui vont voir que vous travaillez sérieusement, alors vous êtes pris au sérieux. Et une œuvre se vend, quelqu'un met le nez dessus et dit « ah mais c'est vraiment bien en fait, c'est intéressant, je vais lui donner une chance un peu plus grande ». Et comme ça, au fur et à mesure, on se retrouve à montrer ce qu'on peut faire.
Et chez vous, Philippe Pujot, toute œuvre est une pensée, c'est ce qui frappe. Et d'ailleurs, c'est ce qui irrigue votre travail, votre démarche d'artiste.
Oui, absolument. Le prétexte, une œuvre, c'est une représentation. Une œuvre, c'est avant tout... Alors, le spectateur, il va dire le coup de cœur. Il va dire, moi, j'ai acheté cette œuvre parce que j'ai le coup de cœur.
Il est dans l'émotion.
Voilà. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais par contre, je pense qu'une œuvre, c'est une puissance évocatrice. Vous écoutez un morceau de Mozart, vous vous en souvenez par cœur.
Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Après la Pologne, la Roumanie, un nouveau drone russe a survolé l'espace aérien de l'OTAN, inquiétant les autorités.